RMC Running, Benoît Boutron.
Bonjour à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC dédié à tous les passionnés de la course à pied. Alors tu le sais, comme chaque semaine, tu vas découvrir ici des portraits de coureurs inspirants, bénéficier de conseils pour progresser dans ta pratique et d'un bon plan matos ou dossard pour rester motivé. D'ailleurs cette semaine, on embrasse Johan Durand, maître Yodu, qui est en stage à Cap-Breton, qui ne peut pas être dispo pour aujourd'hui. On l'embrasse, on le retrouve dès la semaine prochaine. Témoignage extrêmement fort dans RMC Running. Aujourd'hui, on reçoit Laurie Dolostal, journaliste passée par Canal, Eurosport, aujourd'hui sur France Info, L'Équipe ou encore Amazon. Laurie qui est passionnée de course à pied, Laurie qui lutte contre un cancer diagnostiqué il y a 4 mois. Elle va nous raconter comment la course à pied l'aide à traverser cette épreuve, comment elle a adapté sa pratique. Et puis on aura également un rappel important, vous nous suivez si vous aimez RMC Running sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Strava. Vous abonnez, vous laissez des notes, vous laissez des messages également à Johan si vous avez des conseils à lui demander sur le 10 mois Yodu. Je vais tout vous réexpliquer en fin d'épisode. Et puis on vous rappelle qu'RMC Running sera présent sur le salon du Run Experience, le salon du running qui précède le Marathon de Paris. Vous venez nous rencontrer, vous venez participer, ça sera le jeudi 30 mars. Là aussi, je vous en dis plus en fin de podcast. Allez, enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec une journaliste sportive.
Je suis une journaliste de sport, mais je suis aussi une journaliste sportive. Je fais du sport depuis toute petite, j'ai toujours fait du sport et je suis une runneuse, je cours pas mal, ça fait partie de ma vie. Le sport, pour moi, pour nous, ça appartient à tout le monde en fait. On n'a pas besoin d'être des grands spécialistes pour apprécier le sport. Le sport, ça doit être du plaisir avant tout, le plaisir de regarder et de pratiquer le sport.
Ce que j'aime bien faire, c'est enchaîner le sport après avoir emmené l'enfant à l'école ou à la garderie ou à la crèche. Sinon, on fait pas mal de sport en famille. Ma fille, elle fait de la trottinette, donc en fait, elle m'accompagnait pour courir. Et maintenant, elle fait du vélo, donc c'est encore mieux.
Avec 42 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein est le plus courant chez les femmes. Une femme sur 8 en développe un dans sa vie. C'est la première cause de décès par cancer chez les femmes, mais détecté suffisamment tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10.
Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, la standing ovation, s'il vous plaît, pour le grand retour de Laurie de standing. J'ai dit, tout le monde se lève. Peut-être que vous auriez envie de ces petites roses. Ça
merci.
Va, Laurie?
Je suis contente de vous retrouver.
Bah, moi aussi, bienvenue à nouveau, Laurie. Ouais. Vous êtes ici merci. Chez vous et on est heureux de vous retrouver.
Eh oui, Laurie Dolostal, journaliste sportive en direct avec nous dans RMC Running cette semaine. Salut Laurie.
Salut.
Bah, comment ça va?
Bah, ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là, merci.
Eh bah non, merci
de
à toi.
La parole.
Et on est ravis de t'accueillir, voilà. Journaliste sportive, ça te correspond bien. Ce qui est marrant, c'est que je te voyais écouter la production sonore signée Kylian Vérov, notre producteur.
Ouais, vous avez bien bossé, dites-moi.
Et tu disais, mais ça sort d'où ça? Ouais, il a cherché Kylian pour retrouver ses extraits. Hein. Bon, ta fille fait plus de trottinette, elle est complètement passée au vélo?
Oui, du vélo, évidemment, sans roulette et... elle fait également, elle fait de la boxe en ce moment.
Ah,
on
cool.
Est, ouais, on est dans une famille de sportifs.
Ah oui, un petit peu, oui, évidemment, avec Pierre Rabadan, ton conjoint, ancienne légende du Stade français, évidemment, consultant à RMC Sport, s'il vous plaît.
Oui, tout à fait.
D'ailleurs, toi, tu as une grande carrière de journaliste, Orange, Canal, Eurosport, France Info, L'Équipe, Amazon, il manque que RMC, en fait, dans ta
vie. Ça y est, bah, je suis là.
Voilà, ça y est. Alors, Laurie, on démarre toujours par cette question, tu connais RMC Running, donc tu t'en doutes, pourquoi tu cours, tout simplement?
Oui, c'est une bonne question. On peut répondre à la fois très longuement et de manière très courte. J'ai préparé ma réponse du coup, mais en version courte. Je cours et je crois que ça n'a pas de rapport avec la maladie. Je cours parce que je me sens vivante quand je cours. C'est ça que j'aime dans le fait de courir, moi. Quand tu m'as proposé de venir, j'étais un petit peu gênée parce que voilà, je me dis, le pauvre, il va passer de Kylian Jornet à Laurie Dolostal, ça va lui faire un choc en termes de performance. Mais je me dis qu'il faut parler aussi à ceux qui courent juste pour le plaisir, bien le sûr. Plaisir en fait de bouger son corps. Moi, c'est ça que j'aime en fait. Ouais. J'aime bien bouger mon corps, j'ai besoin de ça. Je ne suis pas une hyperactive, mais j'ai besoin de me dépenser. Et c'est ça que j'aime dans le fait de courir. Courir, se sentir vivant, se sentir libre. Voilà, moi, c'est ce que j'aime dans la course.
T'aimes le moment de la course ou t'aimes l'après-course? T'aimes un peu tout ça?
J'aime tout. J'aime l'avant aussi. Ouais. J'aime le pendant, l'après.
Ouais. Bon, eh ben, écoute, tu connais les traditions, on attaque ton CV de coureur. Du coup.
RMC,
le CV de coureur.
Je le fais même avec les dames, évidemment, je te demande ton âge. Tu as quel âge aujourd'hui, Laurie?
Je viens d'avoir 43 ans.
43 ans. Eh oui, ouais. C'est vrai, c'était ton anniversaire il y a quelques jours. Bah, bon anniversaire en retard. Tu cours depuis que t'as quel âge?
Je cours depuis que j'ai... En fait, j'ai commencé à courir quand j'ai commencé le handball. Donc, je cours depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Et tout de suite, voilà, je me suis aperçue que j'aimais ça, que c'était fait pour moi. Et puis, avec l'école aussi. Ah voilà, ouais. C'était
les trucs
où j'étais bonne, les crosses.
Ouais, évidemment. Tu cours combien de fois par semaine, en général?
Je cours je sais pas, 3, 4, 5 fois par semaine. Ça, ah, dépend, ça, dépend. Des moments, ça dépend des moments.
Ça représente combien de kilomètres?
C'est là que je commence à... Non mais voilà, ce que
il n'y a pas de jugement,
en fait,
évidemment.
Non, il n'y a pas de jugement, mais en fait, ma conception de la course, moi, c'est que je compte rien du tout. Je ne sais pas mes temps, je ne sais pas combien de temps je cours.
Ah, ok.
Je ne sais pas combien je cours.
Donc, tu cours sans montre, par exemple?
Je cours sans montre.
Ok.
Et parfois, à la fin, je regarde et je me dis, oh, bah voilà, ça fait ça.
Donc mais tu pars de chez toi, tu te dis, je vais me faire cette boucle-là, et puis voilà.
Ouais, et après, ça dépend parfois du temps que j'ai, mais parfois, ouais, quand je suis complètement dans le plaisir... Parfois je cours plus longtemps que ce que j'avais prévu courir.
Ok.
Voilà.
Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier?
Non, j'ai pas de record. Non,
t'as pris quelques dossards quand même.
J'ai pris quelques dossards. J'ai eu la chance il y a une dizaine d'années de m'entraîner avec des potes pour faire. On a fait les classiques, 20 km de Paris, ouais, semi-marathon, le Paris-Versailles.
Ouais.
Et voilà, j'ai fait ces trucs-là, j'ai beaucoup aimé. Je sais même plus les temps que je faisais, ouais, à ce moment-là,
l'important,
mais j'étais contente.
C'était d'aller au bout du défi, ouais, quoi. Ok. Du coup, la dernière course que tu as disputée, c'était quoi?
La dernière vraie course que j'ai disputée, j'ai fait le 5 km. Voilà.
Contre Kipchoge.
Ouais.
Eh oui, je t'ai rencontré, ouais, moi,
bah,
ce jour-là.
Je l'ai vu passer, du coup. Hein.
Ah, oui, malheureusement, t'as pas pris ton dossard ce jour-là. Quoi.
D'ailleurs, j'étais absolument épatée de le voir. Et ce mec est incroyable, ouais, et il est solaire, et il est lumineux. Et le voir courir, c'est incroyable. Et voilà, moi, c'est pas tout à fait pareil quand je cours.
Alors, moi, j'y étais en tant que spectateur, parce qu'on a eu la chance de s'entretenir avec lui ensuite, pendant un quart d'heure. L'événement a beaucoup été critiqué, parce qu'il y a eu ses problèmes d'allure, etc. Mais moi, l'idée que je trouvais fantastique de l'avoir en parallèle qui court à côté de toi, le meilleur marathonien de tous les temps, c'est génial.
Oh, il faut arrêter de râler, franchement, c'était génial.
C'était super.
Voilà.
Moi, ce que j'ai aimé, je vais te dire, Laurie, parce que moi, j'étais sur la ligne de départ, du coup, parce que le départ et l'arrivée, c'était sur les Champs-Élysées, ouais, et je l'ai vu partir comme une balle. J'ai dit, le gars, aucune pitié, quoi.
Mais non, il nous respectait, c'est normal.
Il est parti à fond.
C'était très chouette, mais juste pour revenir sur cette course, tu vois, je me suis dit, ouais, 5 km, ouais, ça va, fastoche. C'est parti beaucoup trop vite pour moi, j'étais cramé au bout de 30 secondes,
oui, bah
et
oui,
en fait, j'ai galéré à aller faire les 5 km.
Ah, t'as perdu ton souffle tout de suite?
Ah bah, immédiatement.
Ah ouais, ok. Voilà. Est-ce que t'as une course prochaine que tu te prévois, que t'as envie de réaliser ou...
Voilà, moi, j'ai jamais fait de marathon, donc évidemment, je me dis, l'avantage du marathon, c'est que tu peux commencer un peu tard, voilà, faudrait que je le fasse, un jour, c'est sûr.
Bon, on encadrera ta préparation alors à ce moment-là.
J'aurais besoin.
Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée ou détestée? Est-ce que tu te fais des séances de fractionné parfois, ou est-ce que non, tu cours seulement de la course plaisir?
Non. Parfois, je me fais un petit peu de fractionné. En fait, la différence, c'est si je cours toute seule ou si je cours notamment avec mon mec.
Ouais.
Voilà.
Tu mets des raclées ou pas?
Quand je cours avec lui, je déteste parce que je râle au bout de deux secondes, parce que il fait à peu près un mètre de plus que moi, donc forcément, ses poulets sont pas les mêmes. Et
ouais,
que,
il a pris un peu de poids, Pierrot, quand même.
Ouais, mais il court pas mal, quand même.
Ouais, c'est vrai. Il court beaucoup, il fait beaucoup de courses. Hein.
Il a pas pris de poids, figure-toi. Non, il en a perdu, au contraire. Donc, il est léger, il arrive pour cette grande carcasse à courir pas trop mal.
C'est vrai. Laurie Delhostal est donc avec nous cette semaine, on est ravis de l'accueillir dans RMC Running. Laurie, tu nous l'as dit un petit peu, mais ton premier sport, c'était le hand. Hein. Dans ton adolescence, tu as démarré par le handball.
Oui, j'ai commencé par le handball et... c'est un rapport avec la course parce qu'on galope pas mal en handball. Ouais. Moi, je jouais sur les ailes. Donc, voilà, exactement. Mmh. C'était moi, mon point fort, vu mon physique, c'est pas tout à fait la force. Mais voilà, j'étais assez rapide et j'avais pas de problème à courir longtemps. Donc, voilà.
Ton rapport justement à la course à ce moment-là, est-ce que courir c'était un plaisir pour l'échauffement? Est-ce que t'aimais déjà ça ou est-ce que non, c'était que le handball et la course?
Non, j'aimais déjà ça. J'ai aimé ça dès le début en fait.
Dès le début. Hein.
Mais finalement, j'ai pas de souvenir précis. J'ai souvenir d'avoir commencé à faire du sport avec le handball, mais voilà, c'était déjà à l'école. L'endurance, moi j'ai compris tout de suite que j'aimais ça. Et puis après, je voyais bien que j'étais pas mauvaise à ça. Ouais. Voilà, je suis pas une coureuse extraordinaire, mais c'est vrai que j'ai un peu le physique.
T'es grande et lancée, bien sûr.
Je suis pas trop épaisse, donc du coup, c'était chouette. J'avais des bonnes notes, donc j'aimais l'endurance, évidemment. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à faire un peu les crosses. Tu fais des petits trucs sur le cross du collège. Après, on t'emmène au cross départemental.
Voilà.
T'as envie d'aller au cross régional, voilà. Tu te cailles. Tu fais, oh non, finalement, mais qu'est-ce que je fais là?
Puis après, le niveau grimpe vite. Hein, à ce moment-là, les crosses.
Et moi, après, je me suis arrêtée là, tu vois, mais parce que je suis. parce que je suis pas une championne, tout simplement. Mmh. Mais j'ai pas ça en moi, mais j'aimais bien. Ouais.
T'as eu le plaisir de ça.
Ah ouais, complètement.
Ouais. Ouais. Parlons de tes études. Donc un bac L pour toi, Hippocagne et Cagne à Grenoble. Voilà, donc ouais. T'es parti ensuite à Grenoble. Et puis Paris, maîtrise de philo, école de communication et de journalisme. Mmh. Et là, ça y est, tu prends ta voie définitive, celle qui va te porter jusqu'à aujourd'hui dans ta passion.
Oui, et du coup, vers le sport, rapidement. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une histoire familiale de sport. Enfin, le sport, c'était une évidence. Et j'ai bossé tout de suite.
Tu l'as suivi très vite, que tu voulais bosser un peu dedans. Quand tu fais l'école de communication, tu te dis, moi, c'est à terme pour intégrer justement du journalisme sportif.
En fait, j'avais envie de faire ça, mais je ne savais pas si j'y arriverais. Voilà, je n'avais pas vraiment fait de plan sur la comète, mais ça s'est fait assez simplement. Donc voilà, et c'était une évidence. Et après, quand j'ai commencé à bosser sur le sport, je savais que je ne bougerais plus de là et que c'était ce que j'avais envie de faire.
Une rencontre importante, celle avec Patrick Chen chez Orange, parce que ça lance un peu ta carrière finalement.
Oui, c'est avec lui que j'ai commencé à bosser. Et c'est lui qui m'a fait faire de la télé, qui m'a lancé sur la télé, qui n'était pas a priori le média qui m'attirait plus que ça. Mais voilà, après, j'ai commencé à travailler rapidement sur le handball. Donc voilà, c'était...
Bon, tu étais assez à l'aise, du coup, c'était ton sport de prédilection.
Oui, et puis moi, j'aime bien, je fais beaucoup de plateau maintenant, mais j'aime bien aller sur le terrain. Donc, j'ai eu la chance, du coup, avec le handball, notamment, d'aller beaucoup sur le terrain. C'était très chouette.
Après, on parlait de télé, tu rejoins la référence, tu rejoins Canal+, quand même, qui est le groupe très important. C'est en 2011, service des sports, Infosport, tout d'abord. Donc, la chaîne d'infos sportives en continu. Déjà, c'est un très bon centre de formation. Hein,
oui. Et en fait, tout de suite, je travaille sur le handball. Je travaillais tout de suite sur Canal+, et sur Infosport. Donc voilà, tout de suite dans le grand bain, handball, basket, mes sports de prédilection à la base.
Après, tu fais de la Formule 1, donc tu fais le tour du monde en fait, parce que tu vas sur les différents circuits, évidemment le décalage horaire, etc. Et la question que je me suis posée en préparant, c'est quand tu fais comme ça des différents déplacements, est-ce que tu prends un peu de temps pour toi sur un week-end comme ça de Grand Prix d'aller courir, mettre les baskets, alors, je sais pas, dans différents endroits du monde,
c'est intéressant qu'on en parle parce que le running, c'est un truc hyper important sur les circuits de Formule 1.
D'accord.
Parce que en fait, tout le monde a conscience, même ceux qui faisaient pas du tout de sport quand ils sont arrivés sur la Formule 1, que pour encaisser les décalages horaires, le fait que tu manges voilà, plus ou moins bien en déplacement tout le temps, tout le monde se met au running. Julien Febraud, qui à la base ne faisait pas de running, alors je ne sais pas où il en est de sa carrière de runner. Mais,
moi, je crois qu'il a plutôt une carrière en automobile.
Mais il s'y est mis à un moment. On avait une bande, on courait en fait tous les soirs. Et en fait, tu cours sur le circuit, c'est ça qui est génial.
C'est ça que j'allais demander.
C'est que dès que le circuit est fermé, tu cours sur le circuit.
Super.
Et ça te permet à la fois de bosser un peu parce que c'est presque la seule occasion que t'as, tu as de faire le tour du circuit. Et puis, c'est un moment convivial d'équipe. Et puis, c'est un moment où tu croises les pilotes qui font du vélo ou qui courent. Donc, donc, ça te permet de te maintenir en forme. Et c'est super important parce que la Formule 1, c'est très intense. Pour ceux qui suivent la Formule 1, c'est des horaires de dingue, des journées assez énormes.
Par exemple, sur un week-end de Grand Prix, tu partais quel jour ? Le Grand Prix le dimanche, tu pars quel jour toi ?
On commence à travailler vraiment le jeudi parce que c'est la journée des interviews. Donc, tu arrives en général le mardi ou le mercredi.
D'accord.
Quand tu vas loin.
Ouais.
Et donc, faut être en forme dès le jeudi matin. Parfois, tu arrives le mercredi à l'autre bout du monde, faut être forme le jeudi. Et donc, même le jeudi où tu as fait une bonne journée d'interview, où c'est assez intense, après, tu viens avec ton petit sac de sport, tu finis ta journée et avant de rentrer à l'hôtel, tu te fais un tour avec Laurent Dupin, qui est un des intervieweurs de la Formule 1, qui est un très bon coureur. Dans l'équipe Canal, il y avait des bons coureurs. Mm-hmm. Nicolas Alix aussi. On faisait des tours et c'était super chouette.
T'as des souvenirs mémorables ?
Je tiens à dire d'ailleurs que j'ai battu une fois Laurent Dupin. Je
sur quel circuit ?
Je me souviens plus.
T'avais la peau ou pas ?
C'est arrivé une seule fois alors qu'on en a fait des tours ensemble. Mais oui, c'est ça aussi le running, c'est de la découverte, c'est se tenir en forme.
Parce que tu as des circuits incroyables. Je pense par exemple au Brésil, Interlagos, qui est un circuit naturel. Enfin, si tu fais le tour, même en courant, c'est fantastique.
Ouais, il y a des circuits bien galères aussi. L'Autriche, où ça monte. je me souviens que c'était dur.
Spa-Francorchamps,
Spa. Mais c'est des bons, beaux souvenirs de course.
Ouais. Bon, un bon moyen donc de pratiquer ton sport malgré le métier qui est particulier. Y a aussi des grands moments de sport en tant que journaliste pour toi. Il y a les Jeux Olympiques. Parce que toi, tu es une passionnée de sport, donc ça, tu as vécu ça intensément. Les Jeux 2016 à Rio, sur Canal+, d'ailleurs, avec Hervé Matou. Là, tu t'es régalé, j'imagine.
Ouais, j'ai vécu... Moi, ce qui me marque plus encore, c'est les jeux que j'ai fait sur place. Et d'ailleurs, c'est toujours des histoires de running, tu vois. J'ai fait Vancouver, notamment les jeux d'hiver.
Ouais. C'était quoi, 2010 ?
C'était 2010, ouais. Ouais. Et j'ai pu découvrir Vancouver. Moi, souvent, quand je suis en déplacement comme ça, les journées sont assez intenses. Le seul moment, finalement, où tu peux t'échapper un peu, prendre soin de toi et aller découvrir la ville, et je me souviens que Vancouver, je l'avais découvert comme ça, c'est en courant, en fait. D'accord. Donc, tu te lèves un petit peu plus tôt, tu prends des baskets. Et moi, je me souviens, Vancouver, c'est une ville qui est absolument mais magnifique. Et donc, le matin, j'allais courir. Et je me souviens des paysages qui étaient incroyables. J'ai fait Vancouver et Londres comme ça sur place.
Ah bah ouais, les Jeux de Londres, c'était fantastique.
Ouais, c'était génial, ouais, c'était génial, c'était intense.
Et ouais, c'est bien, des histoires de course à pied un peu partout dans les différents lieux que tu as visités à travers ton métier, donc c'est intéressant. Et puis, à travers ton travail, il y a aussi un peu de documentaire. J'ai noté ce documentaire que tu avais fait sur la maternité de sportifs de haut niveau. Donc c'est une autre facette de notre métier, mais qui est là aussi tout aussi intéressante, en fait.
Oui, ce qui m'avait intéressé, c'était de... Ouais, j'aime bien faire un peu de... Ouais, de sociétal, de... modestement d'essayer de faire un petit peu avancer les choses. Ouais. C'est un sujet qui est encore un peu problématique. Et voilà, j'ai essayé avec Ikram Chikesh, qui était ma JRI sur le documentaire, on a essayé un petit peu d'aller donner la parole à des filles qui nous racontaient leurs histoires. En fait, moi, j'avais envie de raconter qu'on pouvait revenir aussi forte, voire plus forte après la grossesse. Ouais, ouais. Et c'est à la fois ce qu'on a raconté et à la fois, on s'est surtout aussi trouvé à raconter toutes les difficultés que les filles connaissaient dans ces moments-là. Ce n'était pas des difficultés de leur corps, pour le coup, parce qu'elles revenaient bien en forme. Mais c'était plus le fait qu'on les mettait de côté, qu'on leur disait « Non, c'est fini pour toi. » Donc, c'était chouette.
Ouais. Ouais, parce qu'on le disait, tu es une journaliste sportive, tu es aussi une femme engagée, hein, parce que tu es coprésidente du collectif des femmes journalistes de sport depuis fin 2020. C'est un collectif que vous avez monté. Évidemment, il y a eu ce fameux documentaire qui est sorti sur Canal+, qui a fait bouger pas mal les choses, finalement, bouger les lignes. Et ça, vous avez créé un vrai mouvement que tu as intégré rapidement, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé à ce moment-là.
Oui. En fait, c'est même concomitant avec le documentaire. On avait sorti une tribune dans Le Monde, le même jour que sorti le documentaire, parce que je suis toujours d'ailleurs assez proche de Marie Portolano et Guillaume Prioux qui ont fait ce documentaire, et j'étais dedans d'ailleurs. On avait envie de faire bouger les lignes, raconter des histoires, et puis après, le documentaire racontait des histoires, et puis après, nous, on avait envie de faire avancer les choses, de dire, non, il ne faut plus faire comme ça, maintenant, il faut faire autrement. Donc, c'est une partie de ce que je fais, ce que j'aime faire.
Mais c'est la force d'un documentaire aussi, c'est d'exposer un problème au grand public et qui fait bouger les lignes. Et là, vous avez vraiment réussi. C'est assez rare, justement, que ça ait une onde de choc comme ça, mais qui allait assez loin. Et j'imagine que c'est une fierté aussi personnelle. Je disais femme engagée, pas seulement par la cause féminine, parce que tu es aussi vice-présidente de l'UJSF, qui est l'Union des journalistes de sport en France. Donc là, c'est femmes et hommes confondus.
Oui, bien sûr. De toute façon,
dès que tu es dans un domaine, tu aimes t'impliquer quoi qu'il arrive. Quoi.
Oui, un peu, oui. Non, carrément à fond.
Voilà. Et puis, on a parlé de ta vie privée depuis 2013. Donc, tu partages ta vie avec une légende du Stade français, on le disait, Pierre Rabadan, ami d'RMC, puisqu'il bosse souvent chez nous le week-end sur le rugby. D'ailleurs, en 2015, il est devenu conseiller au sport auprès de la mairie de Paris. Il est aussi adjoint d'Anne Hidalgo. Il est très impliqué dans le projet Paris 2024. Et puis, ensemble, vous avez eu une petite fille en 2016. Donc, ça fait partie de ta vie aussi. Et voilà, on comprend ton amour pour le sport et c'est une passion que tu partages aussi avec ton conjoint, quoi.
Oui. Et puis, la passion du sport et la passion de l'engagement aussi.
Voilà, aussi, ouais.
On aime le sport, mais on a vu que le sport, c'est plein de belles valeurs, mais il y a aussi plein de choses à faire avancer sur le terrain de l'égalité et sur d'autres terrains, sur le terrain de l'inclusion. Donc, c'est là-dessus qu'on a envie de bosser et de faire avancer les choses.
Tu es aussi une femme de projet, parce qu'après, tu as décidé de quitter Canal+ en 2021.
Oui, exactement.
Et puis là, tu es présente dans différents médias. Tu es présente à la radio sur France Info. Oui. Tu es présente sur Amazon aussi. Enfin, tu vas revenir, j'imagine, prochainement. Tu es présente sur l'équipe de Greg. Donc, sur l'équipe 21.
Ouais, j'aime bien les rencontres, en fait. Ouais. J'aime bien travailler avec différentes personnes. Je trouve que c'est chouette, les rédactions de sport, j'aime bien, ça bouge, il se passe des choses et c'est sympa.
Pour être dans le métier, je trouve ça courageux, en fait. Tu vois, il y a une forme de courage de se dire, je me remets en question. Tu vois, c'est un métier qui est difficile parce que c'est un métier qui est incertain, entre guillemets, qui est dépendant des droits, qu'on soit en télé, en radio ou autre. Et c'est courageux aussi de choisir ses projets, quoi. C'est pas tous les jours. Enfin, moi qui connais bien le problème, c'est vrai que c'est...
Non. Et parfois, il y a des moments où ça peut faire peur, mais bon, c'est voilà, après il faut avoir différents projets à court, moyen, long terme. Moi j'ai par exemple, j'ai toujours envie de faire des documentaires, mais un documentaire c'est compliqué à vendre, ça coûte beaucoup d'argent, tout ça. Donc j'ai toujours plein de projets et puis il y en a plein.
C'est chronophage.
Il y en a plein qui aboutissent pas en fait. Ouais. On voit ce qui marche, on va dire. Après il y a plein d'échecs, mais bon c'est voilà, il y a des choses qui marchent pas et puis à un moment ça finit par marcher.
Exactement. On en vient à ce moment particulier que tu as vécu, cette annonce, ce cancer du sein qui a été diagnostiqué donc à la fin du mois d'octobre, c'est ça ?
Oui.
C'est à ce moment-là que tu l'as appris, Laurie.
Oui.
C'est comment ça se passe ? C'est un rendez-vous de contrôle au départ ?
Oui. En fait, l'histoire est un petit peu étrange parce que j'y suis allée comme ça. C'était une sorte de feeling. Donc voilà, c'est un peu étonnant. Il s'avère que j'avais une grosse tumeur. Donc, on a su tout de suite que j'avais un cancer. En fait, je n'ai même pas fait les examens. On me l'a dit tout de suite.
D'accord.
Enfin, je les ai fait après. Mais donc voilà.
C'est-à-dire, donc, rendez-vous de contrôle et tout de suite, on te l'annonce.
Ouais.
D'accord, donc tu rentres pour un rendez-vous normal et on t'annonce ça.
Ouais, je vais tranquillement à vélo faire une mammographie. Ouais. Alors même que normalement je suis jeune pour faire une mammographie, mais bon, bref, je vais faire une mammographie.
T'as et pas puis... de douleur particulière ?
Non, rien. D'accord. Rien, je suis en pleine forme. Et voilà. Et en fait, je me retrouve à faire une biopsie, tout ça, je peux. Et voilà.
Moralement, comment tu prends la nouvelle ? C'est un coup de massue ?
Oui, bien sûr, c'est un coup de massue. Après, j'y suis allée à vélo. Quand je suis repartie, le médecin qui me disait, qui devait se dire, bon, voilà, elle s'est pris un truc dans la tronche, il me voit repartir à vélo, il me dit, mais on repart pas à vélo après avoir fait une biopsie. Je lui dis, non, mais c'est bon. Enfin, j'ai eu tout de suite envie de prendre le contrôle de la situation et puis de faire après ce qu'on me disait de faire.
Alors justement, comment on l'annonce à ses proches, une telle nouvelle ? Tout simplement ?
Oui, tout simplement. Tout simplement, en essayant presque de les rassurer, même si nous, on ne sait pas trop si c'est rassurant ou pas, parce que, voilà.
Tu sors, t'appelles ou tu rentres chez toi d'abord, tu te poses et ensuite tu prends le téléphone ?
Non, t'appelles, tu dis... Moi, j'ai l'habitude de dire les choses de manière assez cash, quelles que soient les choses. Donc là, je pense que... Moi, je me dis toujours que quand on prend trop nos précautions pour dire les choses, on a l'impression qu'on cache des choses. Moi, je préfère être cash. Permet de ne voilà, de pas en faire quelque chose qui fait flipper.
Comment on en parle à une petite fille ?
Pareil, normal.
Tout simplement,
ouais,
les mots
normal.
Simples, d'accord.
Ouais, en disant bien les mots, parce que je pense qu'il faut dire les mots et pour pas que ça fasse trop peur, quoi. Voilà.
Donc là, il y a l'annonce aux proches qui est une étape importante. Il y a la projection aussi, c'est-à-dire que tout de suite, un tableau, un suivi se met en place, j'imagine, avec un protocole. Donc là, ça se fait assez progressivement ou très rapidement ? Tu sais un peu ce qui t'attend sur les semaines et les mois à venir ?
En fait, c'est allé très vite parce que mon cancer était assez avancé, donc c'est allé très, très vite. Et en fait, je n'ai pas eu trop le temps de réfléchir puisque rapidement, je pense que j'ai commencé la chimio 10 jours après. Le temps de faire tous les examens qu'il faut faire. Donc voilà, après, t'es dans le truc, quoi. Il faut... La métaphore sportive est à la fois un peu grossière et à la fois, c'est... Enfin, voilà, c'est tu commences le match, le combat, et puis t'y vas, et voilà. Quelqu'un m'a dit tout de suite, une amie m'a dit, il faut que t'aies la bonne équipe, il faut que tu sois bien entouré de l'équipe que t'as choisie. Et ça a été important pour moi de me dire, chaque personne, je l'ai choisie. Je suis contente. Mon oncologue, je suis contente. Chirurgienne, je suis contente. Les infirmières, elles sont bien. C'est ça, se faire son équipe, se dire j'ai confiance en ces gens et je vais bosser avec eux. Voilà.
Tu es un personnage public parce que tu fais un métier d'image et de son. Est-ce que ça te préoccupe tout de suite ou est-ce que ce n'est pas la priorité ? Ce n'est pas ce à quoi tu penses à ce moment-là ?
Non, si, j'y ai pensé parce que j'ai arrêté la télé parce qu'on m'a dit tu vas faire une chimio qui est très très forte. Donc, normalement, tu ne vas pas garder tes cheveux. Donc, je me suis dit tout de suite, je vais arrêter la télé. Et là, il y a eu un truc un peu bizarre de qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on dit mais c'était un peu étrange en fait, j'ai vécu genre 10 jours sans rien dire et c'était un peu bizarre.
T'as pas passé un bon moment quoi. Ouais.
Et en fait, je me suis retrouvée à discuter avec une ancienne sportive que j'aime beaucoup, qui a eu la même chose que moi et qui m'a dit oh, écoute, moi, j'en ai pas parlé à l'époque et je le regrette tellement parce que j'ai pas bénéficié de tout le soutien dont j'aurais pu bénéficier.
Ah, oui.
Et là, je me suis dit ah, bah ouais, mais elle a raison en fait. Donc, je vais le dire. C'est un peu chelou, mais je vais le dire.
D'ailleurs, tu as publié un long message, c'est comme ça qu'on l'a appris hein, sur ouais. Instagram. Donc, je vais lire quelques bouts. Hein, voilà, tu dis, il y a un mois tout juste, on m'a dit vous avez un cancer, paf, il fallait faire vite car vous avez un enfant jeune, la totale, le max de traitement. Je me suis demandé tout de suite si on pouvait considérer ça comme une sorte de super avantage. Bienvenue madame de l'hostel, vous êtes une ultra VIP, pour vous ce sera le all inclusive. Et surtout des phrases fortes, j'ai beaucoup couru pour me sentir vivante avant qu'on me rende malade pour me garder vivante. Je trouve cette phrase fantastique.
Bah, oui, parce que le problème, c'est que j'étais en pleine forme, donc je n'étais pas très ouais. contente, en fait.
Ouais.
et que, bah, c'est une évidence, mais on peut le rappeler, c'est pas le cancer à ce moment-là qui rend malade, c'est les traitements pour le tuer. Mm. Donc, j'étais pas contente de ça. Je me dis, oh, ça va me rendre malade, c'est chiant, quoi. Oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup couru, j'ai fait beaucoup de vélo. En plus, voilà, on sait quand on aime le sport que dans les moments un peu difficiles, ça fait du bien de se défouler.
Ça m'a rappelé Anaïs Kemener, l'épisode que tu ouais. as écouté, qui est championne de France du marathon, qui a fait 1h11 au dernier semi, qui a été touchée par un cancer du sein, elle aussi, il y a quelques années, et qui nous disait, elle, quand je sortais de mes séances de chimio, comme je savais que j'aurais plus d'appétit dans les jours suivants, bah, avec mon père, on allait à Flunch, on se faisait plaisir, tout à volonté, voilà, et hop, elle s'envoyait des grosses séances, elle profitait du moment qu'elle avait, de ce ouais. moment de répit, avant de replonger. C'est vrai que c'est, moralement, ça lui a fait aussi du bien. Et d'ailleurs, toi, c'est ce que tu mets aussi dans ton message, tu mets tout le monde m'a dit t'es une battante, résultat la moitié du personnel soignant de Paris m'a vu pleurer. Bon, j'ai fait du fractionné après ma première chimio pour voir.
Bah, c'est intéressant parce que du coup, c'était l'épisode d'Anaïs était vraiment très intéressant. C'est intéressant parce que du coup, bah, quand tu fais du sport, tu es quand même assez à l'écoute de ton corps. Et là, tu rentres dans un espèce de mystère, tu ne sais pas comment ton corps va réagir, tout ça. Donc voilà, on teste des choses et effectivement, je me suis testée et du coup, je me suis testée tout au long de la chimio.
Ouais. On va accueillir un spécialiste voilà, qui est avec nous, un ponte de la médecine, voilà, Jean-Pierre Fraioli qui est avec nous, qui est ancien médecin du Variété Club de France, du PSG, un chirurgien des bouts, voilà, on appelle ça comme ça, c'est un peu trivial, mais c'est un vrai spécialiste de la question et chevalier de la Légion d'honneur également. Salut Jean-Pierre.
Bonjour.
Sois le bienvenu, donc Jean-Pierre.
Oui, je suis toujours médecin du Variété.
Alors voilà, toujours médecin du Variété Club de France.
Voilà, toujours.
On est content de t'accueillir parce que
beaucoup de sport et beaucoup de cancer. Voilà.
Voilà, tu pourras nous en parler. Le cancer du sein, ça te connaît puisque c'est des opérations Absolument. Que tu réalises quasi quotidiennement, Jean-Pierre. Hein.
Quasiment, oui, depuis 53 ans. Donc ça fait quand même longtemps. Hein.
Quelle est l'importance oui. de la prise en charge rapide et surtout de la poursuite de l'activité sportive comme ça quand une femme est touchée par ce cancer du sein?
Ah ben, je crois que ça fait partie des choses très, très, très importantes qu'on commence à bien connaître maintenant en médecine. C'est qu'on sait que on diminue de façon importante les récidives dans les cancers du sein, entre 25 et 40%, ce qui est énorme. Donc, je crois que l'activité sportive, c'est essentiel. On va même arriver à un certain point que la Sécurité sociale va rembourser les séances de sport pour les gens atteints de cancer. Donc c'est quand même des éléments importants, ça. C'est quand même très intéressant.
Là, on parle de physique, Jean-Pierre. C'est important aussi pour le moral?
Très important parce que d'abord, on sort un petit peu d'un ghetto. Parce que quand on est soigné pour un cancer du sein ou n'importe quel cancer, on est renfermé avec des gens qui ont tous le cancer. Et donc c'est une forme de ghetto. Et donc le fait de faire du sport, c'est prendre confiance en soi, ça permet en plus de garder sa musculation parce que les chimiothérapies, c'est pas anodin. Ça détruit les mauvaises cellules, mais ça détruit aussi les bonnes cellules. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une atrophie musculaire. Donc, en faisant du sport, on continue à maintenir sa musculation. Ça accélère la circulation sanguine, donc ça veut dire que les tissus sont mieux oxygénés, les produits sont mieux répartis dans tout l'organisme, et donc ça n'a que des avantages de faire du sport.
Laurie, comment tu le ressens quand tu cours? Déjà, est-ce que tu mets beaucoup moins d'intensité? Est-ce que ça te fait toujours aussi bien au moral, du coup?
Oui. Moi, pour moi, c'est ce que vient de dire le docteur est évidemment très important. Moi, il y avait ce côté performance. Ouais. Moi, j'ai lu quelques études. Je n'ai rien lu sur Internet sur les cancers, mais je suis allée chercher des infos sur cancer et sport.
Ouais.
Non pas parce que Moi, j'étais convaincue que ça serait bon pour moi, c'est sûr. Mais je trouvais ça intéressant, notamment j'avais lu une étude qui disait effectivement que ça diffusait mieux dans les tissus la chimio, et donc ça la rendait plus efficace.
D'accord.
Et puis, moi, il y avait un truc simple. Ma première chimio, je suis rentrée à pied, j'habite à 4-5 km de l'endroit où je me suis fait soigner. Mmh. Et je me suis dit, en fait, spontanément, ces mauvais produits, il faut qu'ils dégagent de moi et que je fasse de l'activité physique, du coup, pour les faire partir. Je trouve qu'on parle beaucoup de sport, on parle aussi d'activité physique. Je crois que c'est important de parler de ça aussi. Ouais. Parfois, on ne se sent pas de faire du sport. Parfois, on ne se sent pas de courir. Mais faire de l'activité physique, c'est-à-dire marcher vite.
Et ouais.
Entre marcher vite et courir doucement, parfois, il n'y a pas beaucoup de différence.
Bien sûr.
Et ça, c'est hyper important sur plein d'aspects. L'aspect mental, c'est aussi prendre confiance en son corps, se dire, moi, mon corps, je le maîtrise. En fait, je suis en contrôle de mon corps. Et puis, physiquement, effectivement, l'histoire d'atrophie, moi j'avais très peur et mes médecins avaient très peur que je perde trop de poids. Le sport, ça permet de garder ses muscles, ça permet d'avoir de l'appétit aussi, ouais. De garder son appétit. Moi, j'ai pas perdu mon appétit et j'ai pas perdu un gramme pendant ma chimio. Et je suis persuadée que c'est grâce au sport aussi, parce que voilà, quand on se dépense, après, en général, on a faim. Donc, c'est bien.
Et t'as eu faim, même malgré les séances de chimio qui coupent parfois l'appétit?
Ouais, alors ça, non, j'ai toujours bien mangé. Malgré tout, même si. Moi, j'étais en colère quand on m'a annoncé ce cancer, parce que je me dis, mais attendez, je suis sportive, je comprends pas, on m'a menti. On m'a toujours dit le cancer, avec le sport, normalement, ça réduit. Et donc, j'étais pas très contente. Puis rapidement, je me suis dit, ça va m'aider d'être sportive. Notamment, j'ai pas perdu l'appétit, ce qui était une chance, parce que je pense que le corps, quelque part, est quand même bien fait pour certains trucs.
Alors, Jean-Pierre, il faut tout de même être prudent, d'autant que Laurie l'a appris alors qu'on attaquait l'hiver, c'était à la fin du mois d'octobre, parce que les défenses immunitaires sont diminuées à ce moment-là, dès qu'on fait de la chimiothérapie, Jean-Pierre. Donc, il y a un risque aussi, il faut surtout pas tomber malade, j'imagine, Jean-Pierre, dans ces moments-là.
Exactement, mais quand même, quand on fait du sport, on a prouvé aussi que ça augmentait la sécrétion des facteurs antitumoraux, ce qui est quand même très important, ça aussi. C'est pour ça que faire une activité sportive, chacun va la régler en fonction de ses moyens physiques. Parce qu'on parlait de marche rapide, de jogging, mais aussi il y a le yoga. Tout ce qui est sport, même si ce n'est pas violent, c'est important pour le moral, pour le physique, pour la musculation. Ça, c'est quand même des éléments très, très importants.
Et puis Jean-Pierre, si on parle justement de sport pendant cette période-là, est-ce qu'on privilégie la fréquence à la durée? Est-ce qu'il vaut mieux faire 4 ou 5 fois 30 ou 45 minutes? Ou alors là, faire 2 heures, mais 2 fois par semaine?
Non, je crois que c'est la fréquence qui est importante, parce que moralement, de pouvoir faire une activité sportive, c'est quand même très important, parce que la chimiothérapie, c'est fatigant. Et donc, le fait de pouvoir faire une activité sportive, ça aide beaucoup. En plus, quand on fait de la course à pied, on sécrète ses propres endomorphines. Donc, la morphine, ça calme un petit peu.
C'est vrai. Jean-Pierre, donc, pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner à Laurie, toi qui suis des patients qui sont touchés par ces patientes qui sont touchées par ce type de cancer, est-ce que tu as un conseil à lui donner, justement?
Eh oui, il faut qu'elle continue, qu'elle se batte, elle va s'en sortir. Moral, c'est fondamental.
Évidemment.
Fondamental.
Et ça se travaille.
De ne pas se laisser aller, ça, c'est essentiel.
Bon.
Et donc, bon courage, il faut continuer comme ça.
Merci.
Merci, voilà. Jean-Pierre, d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci.
J'en prie.
Et oui, Laurie, donc on le disait, l'importance de la course à pied dans ta maladie. Est-ce que tu peux nous dire où tu en es de ton protocole? Est-ce qu'on te considère comme sortie d'affaires?
Non. J'ai trop encore...
Comment ça se passe?
J'en ai encore pour un... Non, je viens de finir mes 4 mois et demi de chimiothérapie.
Ah, c'est terminé. La chimio, c'est fini.
Ouais, je viens de terminer cette semaine, donc
ouf,
voilà.
C'est un soulagement.
Ouais. Oui, parce que la chimio, c'est quand même le plus dur. Et puis je l'ai. Voilà, je suis contente de pas avoir arrêté de courir, de pas avoir arrêté de travailler. Voilà.
Parce que excuse-moi, je veux pas insister là-dessus, mais c'est quand même, j'imagine, un épisode traumatisant. C'est-à-dire qu'il y a ce passage avec le bonnet. Tu sais que tu sens les rayons traverser. Ça doit être un moment dur à vivre, quoi. Pas trop.
Pas trop, mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie, c'est aussi pour ça que je parle. Moi, j'ai pas envie de... Je parle pas pour faire la maline et dire...
Oui, tu veux pas t'apitoyer.
J'ai rien arrêté. Ouais. Soyez aussi fort que moi. Ce que je veux dire, c'est que je veux offrir un autre récit. On entendait dans l'intro, une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein. Alors, il y a 1000 cancers du sein. Ouais. Il y a, très heureusement, il y a des cancers qu'on peut traiter parfois juste avec de la radio, parfois juste avec une opération. Bon, la chimio, on va pas se mentir, c'est pénible. Mais on peut aussi, quand on est jeune, qu'on est en forme, on peut aussi continuer à vivre, à travailler, à vivre presque normalement. Moi, j'ai vécu presque normalement. Et j'ai envie aussi de faire part de ce récit. C'est pas pour dire moi, je suis plus forte que les autres. C'est pour dire, c'est pas parce qu'on vous annonce ça que c'est la fin de votre vie, que ça va être affreux. On peut trouver des trucs positifs dans tout. Et moi, j'en ai trouvé, se dire aussi, c'est positif, faut se dire aussi de se dire, tiens, j'ai des ressources en fait, peut-être même que je soupçonnais pas, donc voilà.
Est-ce que nous disait Jean-Pierre l'importance du moral aussi, tu l'as senti, il y a eu des moments de down, quoi, des moments un peu plus durs.
Non, mais je.
Parce que c'est de l'acceptation, il y a des jours où on doit se dire pourquoi ça m'arrive à moi en fait.
Et puis quand on est bien accompagné, moi je j'aime beaucoup l'humour, je me suis bien marrée aussi, même en chimio, parce que moi j'avais l'habitude de, à chaque chimio j'y suis allée avec quelqu'un de différent, j'y allais avec une copine ou un pote, et on mangeait ensemble avant. Alors moi je pouvais pas manger comme Anaïs pour le coup juste après, mais avant justement je me faisais un bon resto avant. T'en fais un moment aussi fun. Après t'es un peu dingue, c'est chiant, mais bon tu vas te coucher.
Et puis tu le disais donc l'importance des proches, et évidemment notre ami Pierre Rabadan a tenu à te laisser un message. C'est ton conjoint dans la vie, donc on va l'écouter. Pierre.
Salut Laurie de l'Hostal, écoute, je pense que tu m'as reconnu, juste quelques mots pour redire combien j'ai été impressionné et admiratif de la manière dont tu as vécu, appréhendé, combattu ce qui est apparu il y a quelques mois et contre lequel tu as déjà passé une grande étape. Voilà, évidemment, le rôle du sport, comme c'est le cas dans nos vies depuis longtemps, est resté prégnant, et le fait que tu te contraignes à aller courir de manière extrêmement régulière ou pour rester en forme, il y est sans doute pour beaucoup, mais voilà, je voulais te redire toute mon admiration dans l'épreuve que tu passes et qu'on traverse ensemble, et voilà, je suis fier de toi, et il y a encore quelques étapes à passer, mais je sais qu'on va les passer avec succès et réussite. Mais en tout cas, chapeau, tu suscites au quotidien mon admiration, c'était déjà le cas bien avant. Mais ça l'est encore plus maintenant. Donc voilà, je suis fier de toi. Et j'aurai l'occasion de te le redire à un autre moment dans cette journée spéciale. Salut.
Et voilà, c'est le capitaine de l'équipe, Pierre Rabadan. Du coup, tu nous disais constituer une équipe.
Oui. Et sur la course, pour le coup, et moi, j'ai commencé en me disant le seul moment où on peut courir ensemble, tous les deux, c'est le samedi. Parce qu'on envoie notre fille à la danse et on a une heure où on peut courir ensemble. Ouais. C'est le seul moment où on peut courir ensemble. Et je m'étais dit, il faut se fixer des défis pour ce genre de truc. Parce que voilà, ça marche en fait. Je me suis dit, tous les samedis, quoi qu'il arrive, j'irai courir. Et voilà, il y a des moments où ça m'a aidé de courir avec lui. À un moment, en fait, moi, j'habite à côté du parc Montsouris, c'est un de mes terrains de jeu, et y a un petit peu de montée. Et il y a à un moment, je me disais, j'arrive plus à la faire la montée, parce que dans les défenses immunitaires qui baissent, il y a notamment l'hémoglobine, c'est-à-dire l'oxygène que tu as dans le sang notamment. Et du coup, à un moment, on m'avait dit, vous allez être essoufflé, en fait, vous ne pourrez plus courir. Et dans ma tête, à un moment, je me dis, je ne peux plus faire la montée, je crois. Et en fait, avec lui, je l'ai fait, la montée. Donc, on va dire que c'est mon lièvre.
Ouais, voilà, ça va. Au moins, elle est là pour te motiver.
Et je râlais, mais je l'ai montée.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'Anaïs nous l'avait dit aussi, Anaïs Kemener, elle faisait déjà de la course à pied en club. Voilà, elle avait tous ses copains du club qu'elle aimait aller voir. Et puis, elle a eu cette boulimie de projets dans la tête. Elle se disait, elle se projetait beaucoup. Elle se disait, voilà, moi, dès que je suis en rémission, dès que je suis sortie de ça, je veux faire cette course. Tu nous as parlé un peu du marathon. Je sais pas, est-ce que tu as un défi en tête ?
Je vois bien que tu me chauffes sur le marathon.
Ouais, bien sûr. Non, mais en fait, je pense à toi, et évidemment, parce que c'est un moment fantastique qui va arriver. Je sais pas, est-ce que tu te projettes ? Est-ce que tu te dis, mon truc, c'est peut-être d'aller sur le marathon pour tous l'été 2024. Est-ce que je veux en être, ou est-ce que je veux faire un marathon ? Enfin, est-ce que toi aussi, tu as des défis sportifs, des défis running que tu as déjà dans la tête aujourd'hui ?
Non, mais je me dis que voilà, j'aimerais bien être bien en forme au mois d'octobre, voilà, qui sera le mois de Octobre Rose. Ouais, j'aimerais bien, voilà, je me suis déjà engagée à être marraine de certaines courses, tout ça, donc ouais. Voilà, au moins être pas trop ridicule, on va dire. Je le ferai pas en 1-10, le semi, par exemple, mais.
Non, mais tu voulais d'ailleurs nous parler d'une association qui ça te tient à cœur, parce
oui,
que tu.
Oui, Sine Qua Non Run. Voilà, Sine Qua Non. Voilà, je sais pas si tu connais Sine Qua Non Run, c'est une formidable association, en fait, qui. Permet aux filles qui parfois ont peur de courir toutes seules dans la rue, notamment en ville, notamment la nuit. Et ben, c'est des groupes de run en fait pour emmener les filles courir dans la rue, prendre leur place en fait dans l'espace public et notamment parfois se relever des défis tels que allez tiens, on va courir en brassière. Parce que pourquoi pas en fait enfin, ouais, c'est quoi le problème
ouais. Et donc, c'est plus facile à faire à plusieurs que toute seule.
Voilà. Et c'est une chouette asso qui à la fois fait des voilà organise des courses comme ça. Je les suis depuis le début. On s'est rencontrés et à la fois fait aussi voilà parfois des tables rondes pour discuter de ça, dire bah, c'est quoi vos peurs. Voilà, je sais que la dernière fois on a parlé d'un truc hyper intéressant, c'est qu'on fait toujours peur aux joggeuses. Tu sais, il y a toujours l'histoire de les joggeuses tuées dans les forêts. Voilà, souvent les joggeuses tuées dans les forêts, en fait. Après, on s'aperçoit qu'elles ont été tuées par leur mari. C'est aussi dire aux femmes, n'ayez pas peur, en fait. Allez-y, on s'en fout, on va courir dans la rue et on prend la place qu'on doit prendre.
C'est vrai, mais il y a toujours cette idée reçue. Moi, ma compagne fait du running et à partir du moment où le jour se couche, elle se dit, je ne sors pas.
Ouais, ouais,
c'est
donc
tout bête, hein, mais tu as raison, c'est pour combattre ce type d'idée et de se dire...
Au moins, y aller courir ensemble pour reprendre confiance.
Voilà. Belle initiative, je pense qu'on les recevra, tu vois.
Ouais, mais oui, il faut, c'est super ce qu'elles font.
Et ça plaira, à mon avis, à notre bon plan matos, tu vas voir.
RMC, le bon plan matos.
Évidemment, on a convoqué un bon plan matos en lien avec toi, Laurie. On a rappelé Caroline Bonneville, qui était avec nous déjà, avec Anaïs Kemener, qui est responsable marketing chez Anita. Salut Caroline.
Bonjour.
Comment ça va?
Bah super. Bon. Ravie d'être avec vous, encore une fois.
Nous aussi, on est très contents de te recevoir, d'autant plus qu'on est avec Laurie, tu as vu ça, une vraie sportive, une vraie fan de course à pied. Et c'est important pour nous de rappeler déjà que tu bosses chez Anita France. Anita, c'est une marque au départ de sous-vêtements. Et tu nous l'avais dit lors de l'épisode avec Anaïs, mais l'une de vos spécialités, c'est justement l'accompagnement des femmes touchées par un cancer. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça se passe concrètement, Caroline? Comment vous accompagnez les femmes qui ont un cancer du sein dans leur pratique de la course à pied? Alors
c'est assez complexe parce que il y a différents paramètres. Il y a les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont eu une ablation et du coup qui ont besoin d'une prothèse mammaire externe pour avoir une compensation de poids et ne pas souffrir en fait de déséquilibre. Et il y a les femmes qui ont choisi de faire une reconstruction, ou celles qui le peuvent, du moins. Aujourd'hui, on est à peu près à 30% de femmes qui font des reconstructions mammaires et qui ont besoin, du coup, de produits, effectivement, qui soient adaptés aussi à la pratique sportive, entre autres, et qui ne les blessent pas, parce qu'elles ont malheureusement subi tellement de choses entre les rayons, les chimios, que leur sensibilité s'est accrue. Et on a besoin de matières vraiment spécifiques pour les aider et les accompagner en fait au quotidien, dans leur pratique et dans la vie active de tous les jours en fait.
Vous travaillez en collaboration avec des médecins j'imagine alors?
On travaille en collaboration avec des médecins et en fait la particularité d'Anita, c'est surtout qu'on collabore avec une association qui s'appelle Discovering Hands. C'est une association en fait allemande qui forme des femmes qui sont non-voyantes ou malvoyantes à la palpation mammaire. Donc, elles ont une sensibilité accrue par rapport à nous qui sommes voyants. Elles détectent en fait des grosseurs ou des malformations au niveau du tissu mammaire que des médecins même, eux, ne peuvent pas percevoir.
Et oui, le sens du toucher travaille... est beaucoup plus développé.
Exactement.
Donc, incroyable.
Exactement. Bah, nous, on le sait, avec la vue, souvent... nos perceptions sont un peu différentes et là, du coup, comme elles sont malvoyantes ou non-voyantes, leur perception à elles est accrue par ce handicap-là.
Laurie, t'as modifié ton équipement ou non, pas forcément depuis que...
Non. C'est juste que je me couvre beaucoup parce que j'ai peur de prendre froid, en fait. Voilà. Malgré tout, il a fait un peu froid cet hiver. Il y avait des moments où je me disais, c'est juste que je suis plus couverte que d'habitude.
Ouais. Du coup, c'est une gamme de produits particulière chez Anita, Caroline?
Exactement. En fait, c'est des, Selon le choix de la femme, si elle porte une prothèse mammaire externe, pour le coup, on a des produits en fait adaptés au sport où vous allez trouver deux petites poches en fait dans le soutien-gorge où elles peuvent glisser les prothèses mammaires qui sont aussi faites pour le sport, donc des prothèses spécifiques pour la natation, pour le running ou autre, selon la pratique de la femme, et on va pouvoir glisser la prothèse à l'intérieur.
J'imagine que vous avez des retours de clientes, quoi, et que ça doit leur changer la vie quand même.
Ah bah de toute façon, on sait que bah, le sport fait partie de la rémission et de la bonne santé. Donc il faut pouvoir pratiquer et continuer à pratiquer le sport si on le faisait avant ou commencer à le pratiquer par après, une fois qu'on a recouvré un petit peu ses facultés et un peu de force pour pouvoir, bah, comme Laurie le disait, des fois on est un peu affaibli, même beaucoup affaibli. Il faut pouvoir ressortir et pratiquer quelque chose pour avoir un exutoire, en fait.
C'est sûr. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Anita, hein, le site, on peut retrouver sur anita.fr, c'est ça, toute votre gamme de
C'est ça,
produits.
Exactement.
Et sur les différents revendeurs running, d'ailleurs, vos brassières sont disponibles. Donc n'hésitez pas, allez-y, mesdames. Au-delà des femmes touchées par le cancer du sein, c'est quand même une super gamme de produits. Nous, on avait fait gagner. D'ailleurs, on a eu des retours qui sont excellents, Caroline. Donc je me permets de te le dire.
Parfait. Super.
Voilà.
Ça fait toujours plaisir.
Et puis, on en profite pour glisser un petit cadeau à Laurie, puisqu'on vous mettra en contact avec Caroline, qui a prévu des petits cadeaux
pour toi. Super, en tout cas, c'est voilà, parce que effectivement, il faut du matériel adapté, donc
Mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais Caroline nous avait dit dans l'épisode, il y a des femmes qui courent avec deux soutiens-gorge, parce qu'elles mettent 200 euros dans une paire de running et elles s'équipent pas correctement pour une brassière.
Non, mais bien sûr, et ça, je l'ai vu même quand j'étais plus jeune, quand je jouais au hand, effectivement, il y avait des filles qui avaient deux soutiens-gorge, c'est vrai.
Et voilà. Bon, merci Caroline, à bientôt en tout cas.
Avec plaisir, à bientôt.
Merci beaucoup, Laurie. Pour terminer, tu en es où du protocole? Est-ce que il y a des étapes importantes encore à passer ou est-ce que le plus dur est passé?
Non, ça va être long. J'en ai encore pour plusieurs mois, mais...
La fin de la chimio, c'est une étape importante ?
Ouais, c'est important. C'est important parce que normalement, dans quelques semaines, je serai plus avec des défenses immunitaires ridicules. Donc déjà, je pourrais sortir sans avoir trois bonnets et trois écharpes de peur de prendre froid, par exemple.
C'est vrai donc, que t'arrives avec ton bonnet. Bon, t'arrives en vélo. Ouais. Vélo aussi, donc, oui, c'est sûr que...
Donc voilà, mais oui, évidemment, c'est... Ouais, c'est une bonne étape de terminer.
La tumeur a disparu ?
Ouais. Après, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Parce
non,
que,
bien sûr.
Comme je suis encore dedans,
non,
et puis
comprends.
Parce que on est toujours. On peut pas faire le malin face à ce genre de maladie. Et,
ouais.
Et du coup, je préfère rester. Humble et prudente, mais voilà. Mais encore une fois, voilà, le message que je veux faire passer, c'est. Voilà, le sport, même si vous n'avez pas envie, même si vous vous dites « Non, mais là, je suis trop malade, tout ça », sortez de chez vous, ouais. Allez marcher. Et
tu
et quand on
marche... jamais, toi, d'être sorti, d'avoir fait un petit peu de course à pied.
Mais non, parce que tu te sens toujours mieux. Ouais. Tu te sens toujours mieux. Et au pire, parfois, quand j'ai un petit peu trop poussé, après, j'étais un petit peu fatiguée, mais voilà, tu vas faire une sieste.
La bonne fatigue.
Mais il faut c'est vraiment trop important, ça fait vraiment trop du bien. Et puis, courir, c'est aller dehors, c'est prendre l'air, c'est trop important. Et puis, voilà ce que je disais tout à l'heure, raconter un autre récit. On peut continuer à avoir une vie de femme ou d'homme. À peu près normal.
Parce que là, on parle d'un cancer du sein, mais évidemment, les hommes sont touchés par d'autres types de cancers.
Et il y a aussi des hommes qui ont des cancers du sein, d'ailleurs, parce qu'il y a les hommes ont aussi des glandes mammaires.
Et le combat est le même.
Et le combat est le même. Donc voilà, le cancer est de mieux en mieux diagnostiqué. Donc, il y en a de plus en plus, en fait. Donc voilà, il faut plus en parler comme d'une maladie honteuse, comme d'une longue maladie, comme on disait avant, où on cachait presque les gens qui étaient malades du cancer. Les gens... voilà, c'est très gentil, mais c'est vrai que souvent les gens vous regardent en se disant, bon, on a l'impression dans leurs yeux qu'on va mourir dans la demi-heure.
C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que le plus dur dans cette histoire et dans cet épisode, cette épreuve à passer, c'est pas le regard des autres finalement ?
Oui. C'est...
Tu vois, enfin, j'imagine quand tu arrives
à la
pièce, les gens savent.
Il y a à la fois évidemment énormément de soutien et à la fois c'est vrai qu'il y a ce regard qui dit, oh la pauvre, elle va bientôt mourir.
Alors même si c'est un regard bienveillant,
mais bien sûr,
ça t'embête de plus être regardé comme avant, j'imagine.
Voilà, bon, donc du coup, j'ai envie de montrer autre chose et de montrer une image peut-être pas forcément positive, mais voilà. Mais je comprends leur réaction, parce que moi, j'avais la même réaction avant. Hein.
Ouais. Bah, c'est humain, en fait.
C'est, quand tu dis le mot cancer, ça fait sacrément flipper, et c'est normal. Donc voilà, il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui meurent du cancer.
Et puis c'est peut-être plus de la compassion d'ailleurs.
Bien sûr. Mais c'est des sentiments positifs. Voilà, c'est juste ça. qu'effectivement, ce que ça te renvoie, c'est pas hyper.
C'est ce qu'on se dit, c'est que c'est peut-être pas facile à vivre. Quoi.
Et du coup, quand ils te voient courir, ils font ah ouais, tiens.
Ouais, c'est ça. On veut toujours être regardé comme quelqu'un, comme on est, comme tous les jours, quoi, de toute façon, c'est sûr. Bah, Laurie, merci beaucoup pour ce témoignage.
Mais non, merci beaucoup. Merci.
Je fais juste quelques rappels. Vous rappelez que si vous avez des questions running, vous les adressez à Yoann Durand qui nous rejoindra dès la semaine prochaine. Le 10 mois audio, on vous rappelle le concept. On renforce la communauté RMC Running. Vous interpellez Yoann sur le sujet de votre choix. C'est le numéro du standard RMC, le 3216. On a réglé les problèmes techniques. 3216 touche 0 et touche 5. Voilà, vous avez le message. Vous démarrez, 10 mois yodu. Et vous posez la question que vous voulez. Si vous voulez également adresser un message de soutien à Laurie de l'Hostel, vous allez sur son Instagram. Et puis là, vous pouvez, pourquoi pas, lui laisser un message. Autre annonce importante, on sera bien présent au salon du Run Experience. Donc, le 30 mars à Paris, Porte de Versailles, dans l'après-midi. C'est le salon qui précède le Marathon de Paris. Il y aura de nombreux intervenants, beaucoup de surprises, du testing produit. On sera sur le stand d'ASICS, qui est le partenaire officiel de tous les coureurs. Et puis, on vous pourrez gagner votre gel Nimbus 25. Donc, magnifique cadeau. Venez participer avec nous. On sera ravis de vous faire participer également au podcast. Donc, vous êtes attendus. Indiquez-nous sur les réseaux si vous prévoyez de venir. Et puis, Laurie, la dernière tradition, tu le sais, c'est de te demander la musique que tu écoutes quand tu cours. Mais nous, on a plutôt voulu te rendre hommage. Du coup, on a choisi pour toi. Je suis désolé. On a choisi Sia aujourd'hui. Sia, la musique Unstoppable. Donc ça me permet de te remercier une nouvelle fois d'être venu.
Merci beaucoup.
Te dire à bientôt pour une prépa marathon. Ouais, on sera ravis de t'encadrer. Et puis bah, de te dire à bientôt en tout cas.
Merci beaucoup, merci à tous.
Merci Laurie. Et comme toutes les semaines, on vous rappelle ce conseil. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Today.